Here's a song that comes from Tanzania.
Galère. Nous sommes le 28 février, dans les jours du mois, le mois court, bien employé quand même, avec nos lectures. Et je prends les informations qui sont sur l'agenda de Mille Babord. Demain, jeudi 1er mars, à Mille Babord, il y a une heure d'espéranto. C'est le café linguistique et qui est consacré à l'espéranto Marseille, donc à Mille Babord, à 18h demain. Vendredi 2 mars, là, c'est à 19h, et c'est à la librairie Transit, Laurent Cové, qu'on connaît à cause de Manifesten, et va parler de son dernier livre, La domestication de l'art. Enfin, samedi, ce n'est pas sans écho avec d'autres livres d'aujourd'hui, à la librairie Transit, à 10h du matin, une rencontre sur la poésie palestinienne dans le cadre de la Semaine de la Poésie. Voilà les petites annonces que je voulais vous faire. Le livre que nous lisons est assez important pour que je ne parle pas d'autres livres aujourd'hui. Et en effet, il s'agit le titre Edward Said, le roman de sa pensée. Donnons quand même quelques indications sur l'auteur. Elle s'appelle Dominique Edé. Elle est libanaise. Elle est née à Beyrouth en 1953. Et c'est elle qui a publié, parce qu'elle était à ce moment-là aux éditions du Seuil, le premier exemple de son fameux livre qui a fait connaître Edward Said, à savoir l'orientalisme. Et je pose tout de suite une question, c'est un problème parce que je ne l'ai pas résolu en lisant le livre. Le livre La pensée, le roman de la pensée d'Edward Said est publié aux éditions de La Fabrique, et elle dit c'est Hazan qui m'a proposé de le publier chez lui. Et j'ai répondu oui, parce qu'il m'avait demandé, deux, parce que c'était un ami, bien qu'il y ait un grand désaccord entre nous. Mais le désaccord, à part d'en parler, elle aurait dû pas du tout en parler, je pense, à ce moment-là. Ce n'est pas traité dans le livre. Il s'agit peut-être de la lecture qu'ils font des accords d'Oslo, puisque ça a été pour Edward Said quelque chose de très grave. Alors, Dominique Edé n'a pas été épargnée par la vie. Elle a eu un cancer et elle s'en est sortie. Et elle a fait deux psychanalyses, la seconde avec Green, dont elle parle souvent dans son livre. Et c'est ainsi qu'à travers elle, on va voir. Est-ce qu'on va voir on va lire le roman de la pensée de Edward Said? Je vous dis tout de suite, il n'y a pas de roman. À mon avis, il n'y a pas de roman. Moi, au roman, j'ai été élevée à l'école de Prop, le russe, sur les romans. Il faut qu'il y ait un début, une fin, des péripéties, des adjuvants, des opposants. Bon, et là, c'est pas visible. Et puis, il n'y a pas du tout d'ordre chronologique, ce qui m'a, comme j'aime bien les choses bien ordonnées, ce qui m'a pas mal gêné. Donc, ce n'est pas un roman. Et cependant, il nous livre en effet une vision qui est extrêmement vivante, intéressante, du grand homme qu'est Edward Said. Alors parlons donc maintenant d'Edward Said, parce qu'après tout, c'est lui le personnage de ce roman. Je vous dis tout de suite qu'il ne faut pas vous fier à la couverture de cette édition-là. Il y en a une autre où les couleurs sont beaucoup plus vives. C'est tout gris. Moi, Edward Said, je ne vois pas du tout comme quelqu'un de gris. Et puis alors là, son costume, sa pose, le rend en quelque sorte très anglais. Il était citoyen américain, mais ça fait très anglais. Et je ne sais pas pourquoi l'éditeur a voulu ça. Il a voulu peut-être insister sur le côté Edward, parce qu'elle distingue bien Edward et Saïd. C'est une dualité qui pose le problème de l'identité. Alors, le problème de l'identité, moi, ça ne me passionne pas, mais le fait est qu'il faut bien se rendre compte que ça a été important dans l'œuvre d'Edward Said. Edward, c'est un nom qui tient de son père, qu'on appelait Wadi, qui était un homme d'affaires palestinien, très riche, qui menait très bien ses affaires, mais qui se souciait tout pas du tout de la Palestine, ni des Arabes en général. Et d'ailleurs, il a introduit un W, Edward W. Saïd, parce que c'était les initiales du nom qu'on donnait à son père, on l'appelait Wadi, il a nommé son fils Wadi aussi. Alors, c'est donc un côté qui est tout à fait classique chez lui, et on le voit d'ailleurs, les parents, en 47, ont quitté Jérusalem où ils habitaient pour habiter l'Égypte, et ils ne revenaient à Jérusalem que pour les vacances, donc il avait une maison là-bas. Et puis à un moment donné, ils ne sont même pas revenus pour les vacances. Et en 62, la famille est partie aux USA, où le jeune Edward Saïd a fait toutes ses études. Il était professeur à Columbia University, c'était un intellectuel très connu en Amérique et le principal représentant en Amérique de la cause palestinienne. Et là, on voit là donc l'aspect Saïd de son œuvre. Il dit que tout enfant, il ne connaissait pas du tout les Palestiniens, qu'il a découvert les choses tardivement, il les a découvert au moment de la guerre des 7 jours en 67. Et à ce moment-là, il a abandonné sa carrière de cadre pour se consacrer à la cause palestinienne. Nombre de conférences, nombre de prises de parole ont émaillé toute son œuvre. Et pour faire connaissance avec le personnage bien vivant que présente Dominique Hédé, qui a eu avec lui une liaison orageuse, un premier temps, puis une longue absence, et puis un retour. Ça donne donc un certain prix quelquefois, ça m'a des fois un peu gênée, mais elle en parle très bien.
Édouard Saïd était un auteur doublé d'un immense orateur qui prenait autant de plaisir qu'il en donnait à transformer sa pensée en objet vivant, en théâtre. Debout, devant des salles pleines, la voix grave et rapide, le regard sur le qui-vive, tantôt amusé, tantôt sérieux, souvent les deux, les yeux hissés au-dessus de ses lunettes rondes posées sur le bout de son nez, le torse redressé à coups de mouvements brefs de la nuque ou des bras, les mains appuyées à un pupitre, mais plus souvent sur scène, en action, accompagnant ses phrases de leurs longs doigts nerveux. Il pouvait transformer l'examen d'une citation aride d'Auerbach ou d'un énième accord israélo-palestinien en un moment de plaisir. La parole faisait de lui un artiste. Il savait doser la part d'ironie, de gravité, de paradoxe, d'érudition, de répétition. Il comptait sur son intelligence pour retenir l'attention, sur son charme pour emporter le morceau, sur son pouvoir de conviction pour apaiser sa profonde, quand bien même invisible, anxiété. Lorsqu'il était animé par la colère, il parvenait parfois à la dompter sous forme d'ironie glacée, parfois pas. Alors, son sarcasme plus ou moins débordé donnait la mesure de l'homme blessé qu'il était. N'était-ce pas le secours de la musique, la machine de guerre à laquelle il s'est attaqué, la puissance politique et militaire du duo israélo-américain, aurait sans doute épuisé ses forces bien avant la leucémie. Il a eu le grand courage de mettre coûte que coûte son savoir et son énergie au service d'une cause perdue d'avance à l'échelle d'une vie. Luttant pied à pied, au sein d'un monde occidental largement traumatisé par la culpabilité d'avoir laissé faire le génocide des Juifs, et de s'en être acquitté à bon compte par le biais du déni et de la cécité envers les Palestiniens, Saïd a réussi à tenir sur ses positions sans jamais céder un pouce de son territoire à ce qu'il avait également en horreur, l'antisémitisme.
Voilà, et c'est ainsi que, au moment de sa mort, je ne vous ai pas dit qu'il était mort en 2003 d'une leucémie après s'être battu 10 ans contre. Eh bien, le grand journal israélien Haaretz, le journal de gauche, a titré le plus grand intellectuel juif, il l'appelle intellectuel juif, est mort, probablement à cause de ses positions que vous venez d'entendre à la lecture. De cette première lecture, je retiens deux choses. Premièrement, le nom d'Auerbach. C'est le premier nom qu'il présente. Alors, la liste de ses lectures, elle est quasi impossible à faire, tellement il a lu de choses. Mais Auerbach, c'est l'auteur de la Mimesis. Mimesis, le sous-titre, représentation de la de la représentation du monde par la littérature occidentale. Et Mimesis a une grande thèse qui a certainement beaucoup influencé Édouard Saïd dans son livre sur l'orientalisme, puisque l'orientalisme, c'est sous-titre, c'est l'Orient vu par l'Occident. Autrement dit, on a ce livre nous enlève pas mal de préjugés. Moi, j'avais lu l'orientalisme et je connaissais Édouard Saïd comme quelqu'un qui était un spécialiste de l'Orient, qui parlait pas comme tout le monde et qui aimait pas l'orientalisme naïf. Et ben, j'ai appris seulement après qu'il était un militant pro-palestinien. Donc, la thèse d'Oerbar dans Mimesis est celle-ci. Il y a deux grandes représentations de la réalité dans la littérature mondiale. Une représentation qui est celle que nous avons héritée de l'Antiquité et de Rome, qui est une représentation cyclique. Elle est bien présentée notamment dans Virgile. L'humanité fait un cercle et revient à son point de départ. Et cette vision cyclique est une vision qui interdit, enfin, on n'est pas obligé de rester toujours dans le même cercle, mais enfin, interdit la notion de progrès. Et il dit que c'est dans la Bible, et de cette vision, il donne comme exemple le récit de la cicatrice d'Ulysse dans l'Odyssée, et en disant que le passé, et il redevient du présent. Donc, Ulysse a bouclé le cercle, il est rentré chez lui. Et là, sa vieille nourrice, elle est la seule à le reconnaître, elle le reconnaît à sa cicatrice. Voilà le récit de la cicatrice d'Ulysse, signe une représentation cyclique de l'histoire. Et au contraire, il dit que ça commence avec le sacrifice d'Abraham et ça se termine avec les Lumières et avec le marxisme. Et ça continue avec les Lumières et avec le marxisme. C'est une vision d'un monde orienté vers plus d'humanisation. Et c'est pas pour rien qu'elle, à mon avis, qu'elle a commencé en citant dans sa première présentation d'Edouard Saïd, Oerbar. La deuxième chose qui est à remarquer, c'est l'importance de la musique. Et il avait lié dans les dernières années une grande amitié avec le chef d'orchestre Barenbaum. Ils ont d'ailleurs fait ensemble un orchestre qui mêlait des Arabes. Et j'aime mieux dire palestinien, mais enfin, s'il disait arabe, elle a dit palestinien et arabe, et des juifs, et c'est tout à son honneur, cet acquis. En tout cas, il était passionné de musique, il avait deux pianos, et il se promenait, il faisait ses voyages avec les pianos, parce qu'il était plus souvent à l'hôtel que dans une résidence fixe, et il dit un jour que Dominique Aidé lui disait, on pourrait quand même vendre ton appartement à Paris et se trouver un appartement plus petit à New York. Et il disait, comment je ferais pour y mettre mon second piano, qui est un piano à queue. Voilà, la musique a été importante pour lui et elle dit que sans la musique, il n'aurait peut-être pas pu, étant donné ce qu'il était, continuer de lutter. Voilà ce que l'on peut dire à premier abord. Et puisque je parlais de leur relation, eh bien, on va lire un moment où elle dit qu'elle a 28 ans et lui 16 ans de plus qu'elle. C'est à la page 29.
J'ai connu Edouard en 1979. Notre relation, vécue en deux temps, n'est pas le sujet de ce livre. Je n'en ferai pas non plus abstraction. J'aurai recours à ceux de nos échanges et de mes souvenirs qui éclairent d'une manière ou d'une autre son œuvre et sa vie. Nombreuses sont les raisons pour lesquelles mes essais de livres sur lui ont échoué durant les 10 dernières années. La plus décisive de ces raisons tient à la difficulté que j'ai éprouvée, que j'éprouve encore, mais à un moindre degré, à ajuster ma voix. Je ne souhaite ni nous trahir en livrant ce qui n'appartient qu'à nous, ni me brimer en censurant plus que nécessaire le bonheur et la souffrance. Tous deux extrêmes que je dois à notre rencontre. Maintenant, je vais donc page 60.
Voilà, c'était bien ça.
29.
C'était bien ça. Mais c'est ce que tu viens de lire.
Ah non, je viens de lire la page 14.
Oh.
Mais il y a quelque chose en 29. Je vous lis la page 29. Un jour que nous marchions à Paris, sur le pont royal en direction du Louvre, il s'était arrêté pour me demander « Que veux-tu construire? Que veux-tu faire de ta vie ?» J'avais alors 28 ans. Il en avait 18 de plus. « Je ne veux rien construire, » avais-je répondu. « Je veux vivre. » Je revois son visage mi-affolé, mi-admiratif. Le luxe que je me payais en tournant le dos à l'idée d'une carrière lui paraissait extravagant, suicidaire. Une autre fois, 12 ans plus tard, alors que je me remettais à peine d'un cancer et qu'il était sur le point d'entamer une chimiothérapie, il m'avait arrêté de la même manière, du même geste, de la même voix, dans une rue voisine pour me dire « We are very complementary. I have the knowledge, you have the self-knowledge. »
Nous sommes vraiment complémentaires. J'ai le savoir et vous, vous avez la connaissance de vous-même à cause de sa psychanalyse.
Surinvesti d'un côté, dépossédé de l'autre, je m'étais tue, plutôt flattée. Disposer du savoir psychique sans disposer du savoir tout court me donnait la curieuse sensation d'avoir beaucoup voyagé sans avoir vu de pays. Je m'en consolais en me disant que cela valait mieux, tout compte fait, que de n'avoir pas voyagé du tout. Éprouvé, à l'époque, par l'accident cérébral de mon analyste, René Diatkine, j'avais entamé un nouveau travail analytique avec André Green. Le premier m'avait aidé à choisir la vie comme contre la maladie. Le second m'impressionnait beaucoup par son intelligence. « Diatkine vous a aidé à vous autoriser dans le domaine affectif », m'avait-il dit. Nous allons travailler à vous autoriser sur le plan intellectuel. »
Il dit nous en parlant de lui. On voit là le fil d'un autre roman qu'elle ne dit pas et qui n'est pas le roman de la pensée d'Edward Said, mais qui est le roman de sa relation avec lui et avec elle-même à travers sa psychanalyse. C'est sûr que le livre montre très bien l'importance de la psychanalyse. Mais on va quitter un moment la psychologie pour aller voir ce qu'elle dit des idées politiques d'Edward Said.
Saïd était de gauche au sens où il dénonçait le fait accompli des inégalités sociales, raciales, de classe. Au sens également où il donnait à la volonté le pouvoir de contrer l'injustice et la fatalité, de concevoir des chances et des moyens égaux pour tous, de rendre possible une gestion non capitaliste des richesses et des biens. Il n'en reste pas moins que ses écrits laissent planer une zone de flou quant aux réponses concrètes, aux dispositions à prendre. Contrairement à son ami Chomsky, Saïd consacre peu d'espace au chapitre socio-économique, au combat contre le libéralisme. Lorsqu'il évoque la lutte des classes, c'est dans le sillage intellectuel d'auteurs tels que Gramsci ou Lukács, plutôt que sur le terrain de la réalité elle-même. Il a nettement concentré sa bataille sur la question de la domination d'un monde et d'une culture par l'autre, plutôt que sur celle des classes. Il avait certes plus d'un ami marxiste, mais fuyait tous les « ismes ». Il n'est d'ailleurs pas dit qu'en s'alignant, dans le dernier tiers de son œuvre sur la lutte féministe, il y ait véritablement pris sa part. Pour preuve, le peu de réaction que provoque chez lui la misogynie d'auteurs dont il pointe à la moindre citation près la vision impérialiste. Je pense notamment à Conrad, pour ne rien dire de Nietzsche, et à cette phrase de Saïd lui-même, pour le moins machiste et d'une autre époque, que j'ai moi-même traduite sans rien y trouver à redire sur le moment. L'ennui avec les abstractions et les orthodoxies, c'est qu'elles deviennent des maîtresses qu'il faut constamment apaiser et flatter.
Des maîtresses qu'il faut constamment apaiser et flatter, voilà. Et ben, c'est sous sa plume. Elle l'a même laissé passer. C'est le moment d'aller regarder un peu une autre personnalité, c'est celle de Conrad, l'écrivain Conrad, dont Patrick Deville nous a parlé. Alors on le retrouve avec tout à fait un autre regard et qui a beaucoup influencé Edward Said toute sa vie. Il a fait sa thèse sur lui en disant « Les limites de la réalité » dans l'autobiographie, et c'était consacré à l'écrivain Conrad, qu'on appelait aussi le manchot. Et ces livres et cet attachement à son premier, à sa thèse universitaire, montrent bien à quel point Saïd est proche de Edward et Edward est proche de Saïd. Un mot sur ces livres, je n'ai pas pu les comment dire, au fil de ses lectures, j'ai dû en laisser passer plusieurs parce qu'il a écrit de très nombreux livres, mais son premier livre, c'est justement l'orientalisme, cette thèse qui a pas mal secoué les cerveaux à l'époque, qui dit que les orientalistes ont vraiment dénaturé l'Orient. C'est pas l'Orient, c'est l'Orient vu par l'Occident qui est en cause. Et ça date de 78. Ensuite, il y est revenu 10 ans après avec Culture et impérialisme, et où il reprend cette même thèse, mais en l'élargissant. Et on lui a d'ailleurs reproché de s'en tenir dans son premier livre à l'orientalisme français et anglais, et qui est évidemment des orientalismes guidés par le mouvement de la imprégné par le fait de la colonisation, et c'est ce que lui reproche notamment Maxime Rodinson. Mais ces deux livres ne sont pas les seuls à noter Covering Islam, comment les médias ont parlé de l'islam, qui date de 81, et on voit le roman de sa pensée évoluer. Il est davantage question d'islam dans la deuxième partie du livre. Et il faut aussi noter en 79 la question de Palestine. Et puis d'autres, la question de Palestine, c'est 79. Vous voyez que c'est assez tardif. Hein. Exil, réflexion sur l'exil. Out of place, important, il est toujours de côté, il n'est jamais à sa place. C'est cette opposition entre Edward et Saïd qui se retrouve dans ses livres. Ensuite, Beginnings, les commencements, et elle remarque que cette notion de commencement est très importante chez Edward Saïd parce que il distingue le commencement de l'origine. Il dit que l'origine, elle est statique, elle ne bouge pas, tandis que le commencement, c'est quelque chose qui lance toujours vers l'avenir et qui ne veut pas trop regarder vers le passé. Ça m'a fait penser à vos thèses sur l'histoire de Walter Benjamin, qui dit « Nous sommes aspirés de toutes les forces vers l'avenir, mais nous regardons avec autant de force vers le passé. » C'est une thèse, et il commente par là une ancienne gravure, je ne sais plus de qui elle était. Voilà pour ce qui est de ces lectures, et nous allons, ce bon Pablo est reparti, nous allons mettre un peu de musique. Et sinon, tu avais
oui,
déjà
un texte sous les yeux.
Voilà, vas-y.
Le temps que Pablo revienne. Nietzsche écrit « Les généalogistes de la morale ont-ils jamais entrevu jusqu'ici, ne serait-ce que vaguement, que le concept de schuld, faute par exemple, concept prédominant de la morale, remonte au concept très matériel de schulden, dette. Nous avions une dette de même nature, Edouard et moi. Elle a contribué à notre proximité intellectuelle, à notre commune conception de la morale politique et à notre même besoin d'en atténuer l'emprise, par l'évasion que nous procuraient la littérature et la musique. En somme, l'œuvre de Saïd intègre avec une constance et une précision remarquables le rachat de cette dette sous une forme qui, au bout du chemin, s'en affranchit, ou en tout cas lui doit moins. Quand on sait qu'en arabe, ce sont les mêmes lettres, din, accentuées différemment, qui désignent la dette et la religion, al-dayn ou al-din, on est doublement saisi par la suite du raisonnement de Nietzsche. Le châtiment en tant que représailles s'est développé complètement à l'écart de toute hypothèse quant à la liberté ou à la non-liberté de la volonté. Par extension, ne peut-on dire que de la religion, quel est le rachat par excellence, hors preuve et hors volonté, d'une dette associant l'ignorance et la faute ?
Bon, voilà un des grands thèmes du livre. C'est pas un thème tellement propre à la pensée d'Edouard Saïd, qui a un athéisme inoxydable, mais visiblement Dominique Aidé l'introduit, ça la tracasse, ça ne doit pas être sans relation avec sa psychanalyse. Et on va maintenant mettre un peu de musique palestinienne. Merci Pablo, qui est revenu. 08 28 10, et nous continuons avec le thème de la religion. Et le livre se présente à partir d'un certain moment avec, je l'ai dit, la montée de l'intérêt pour ce qui est de l'inquiétude que lui donne le développement de l'islam et de la religion, et de confrontation d'Edouard Saïd avec un certain nombre d'auteurs. Et c'est ainsi que se repose la question de Dieu. Il préfère Conrad à Dostoïevski, elle le dit très nettement. Et d'autre part, elle dit que ces deux grands modèles ont été Vico, donc au XVIIIe siècle, qui disait que Dieu, ben oui, peut-être qu'il existait, mais en tout cas, il ne se préoccupait pas des hommes. Il n'était que influence dans la nature. Et en revanche, il préférait Sartre. Ils étaient de la même époque, de la même génération. Et Sartre, pour lui, il disait que Dieu n'existait pas, que d'ailleurs il ne fallait pas qu'il existe. Peut-être qu'il n'était pas jusque-là. Et c'est aussi, je reviens à Conrad, sa grande admiration. Il aimait la méthode rétrospective de Conrad dans ses romans. Je ne peux pas vous en donner la preuve parce que je n'ai pas lu Conrad. Il faudra quand même que je le fasse. Au moins, le livre m'aura donné l'envie de le lire. Et il dit que elle a trouvé une ressemblance entre la méthode de Conrad et la sienne, et qui consistait à faire l'interprétation de ce qui, au moment où ça s'est passé, elle n'envoyait pas la réflexion. Elle n'arrivait pas à réfléchir sur ce qui s'était passé entre elle et Saïd, et que des années après, elle y est arrivée. Et c'est ainsi qu'on peut donner une autre vision à ce roman de la pensée, que je répète, c'est pas tant la pensée de Edouard Saïd, mais c'est le roman de la pensée sur le roman. Et là, cela l'amène aussi à prendre la mesure du thème de la folie. Et là, elle cite Derrida, elle cite Michel Foucault, qui a beaucoup impressionné, dit-elle, Édouard Saïd, mais il leur préférait très nettement Frantz Fanon. On sera amené à en reparler et à vous faire une lecture. Et là, cette hésitation, certainement, il faut la relier, et cet amour très important pour des auteurs, il faut la relier à la relation très spéciale d'Edouard Saïd avec ses parents. Son père, j'ai déjà dit, était un homme d'affaires palestinien extrêmement occidentalisé. Il était d'une famille protestante. Il était très austère et très exigeant avec son fils, qui, semble-t-il, ne répondait pas à ce qu'il voulait que soit un garçon. Et il avait une terreur de son père. Il raconte, c'est assez dans ses mémoires, mais ses mémoires qui se terminent au moment où il va partir en Amérique. Il dit qu'il n'était pas du tout sportif et qu'il devait disputer une compétition. Il était dans un pensionnat chic et très occidental, avec un costume, beaucoup de sport. Il n'était pas du tout bon en sport, mais qu'un jour, à l'occasion à l'occasion d'un match, il s'est absolument il s'est déclenché avec une violence terrible, et il a fini par faire gagner son équipe, au grand étonnement de tout le monde. Alors on voit là, chez le petit garçon, parce que ces mémoires sont appelées à contre-courant, c'est un peu un premier signe de son out of place. Il est à sa place nulle part, ni dans sa famille, ni tout à fait en dehors, parce que on va le voir, il a un idéal qui n'est pas un idéal de militant ni de partisan. Venons maintenant à sa mère. Sa mère était quelqu'un qui était libanaise et qui est une figure étrange. Elle s'appelait Hilda. Elle dit qu'elle avait une préférence pour un autre de ses enfants, et qu'elle a été avec Saïd quelqu'un qu'il révérait, mais qui lui faisait peur aussi, parce qu'il craignait toujours de la contrarier. Elle était d'humeur changeante, et il lui écrivait souvent. Il était très attaché à sa mère, mais on ne peut pas dire que cet attachement lui a été très gratifiant pour lui. Il y a là une espèce de vide, une espèce de blessure. Quand on compare avec les mères africaines, telles qu'elles apparaissent dans le roman africain, ben on voit une terrible différence. Et c'est ainsi qu'on va voir comment il engage une réflexion sur la littérature, et il se pose une question sur l'apparition très tardive de la fiction dans la littérature arabe. Page 97, je suis à la bonne page.
J'ai un autre morceau avant, si Dieu veut, je le lis, à propos, semble-t-il, de la folie. Vas-y. Saïd est à vrai dire le moins tenté par le sujet. Non seulement il ne connaissait pas la folie, mais il la fuyait. Frantz Fanon aura fait preuve sur ce plan d'une audace et d'une sagesse peu communes. Sa lucidité sur la détresse psychique n'entrant pas en conflit avec sa force de combat. Il occupera une place continue et sans crise dans l'œuvre de Saïd. Fanon est à la fois capable de faire le diagnostic de la nature, de l'oppression, et de s'occuper des moyens d'y mettre fin, écrit Sonia Dayan Hersbrun, qui contribua, ainsi que Pierre Bourdieu, à rompre la solitude d'Edouard sur le plan universitaire en France. Ensuite, alors, tu m'as dit quelle page ?
Elle a eu un mal fou à faire publier l'orientalisme, et elle a le diffusé. Et c'est donc le thème de la folie, et avec sa préférence pour Frantz Fanon. Et maintenant, on va voir comment il se pose des questions sur l'apparition tardive de la fiction dans la littérature arabe. Et il se demande si c'est la faute du Coran.
Moi, je suis page 97. Ouais. Combien d'entre nous connaissent le sens étymologique du mot charia, que j'ai appris pour ma part en lisant Chabi ? Charia est lié à une caractéristique de terrain, l'accès à l'eau dans l'Arabie aride. L'image induite renvoie à une réalité très forte en contexte. La charia, mot féminin, est un point d'eau tout à fait particulier. Il est celui où l'eau affleure. Dans le cas idéal de la charia, les dromadaires peuvent donc s'abreuver directement sans que leur berger ait besoin de puiser. De son sens initial à l'usage qu'en ont fait les wahhabites et d'autres docteurs de la loi, le moins que l'on puisse dire est que le mot a dégénéré. Conçu pour désigner le point d'eau qui étanchait la soif du chameau, le mot sert aujourd'hui à légitimer des chapes de plomb.
Voilà comment il met en garde, lui qui veut absolument lutter contre le mépris des musulmans, eh bien, il est amené à voir que, dans la, je parlais du Coran tout à l'heure, dans la littérature arabe, eh bien, il y a des choses qui ont été cachées aux enfants et il défend le droit de tout dire et il attaque très fortement, par exemple, l'orientalisme français et les visions que peuvent avoir, par exemple, Gérard de Nerval.
Dans une conférence donnée en 1996 à l'université de Bir Zeit, lors d'un séjour en Palestine avec Edward, j'avais traité de la vision qu'avaient des Arabes les voyageurs français du 18e et du 19e siècle. L'extrait qui suit éclaire notamment les raisons pour lesquelles on a pu dire ou penser sans complexe que la Palestine était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Nos Arabes, dit Lamartine, quand il évoque leur présence, leur civilisation, est synonyme de meurtre et de pillage. Chateaubriand n'est pas moins éloquent. Ces Arabes qui infestent les déserts, écrit-il. Rien n'annoncerait chez eux le sauvage s'ils avaient toujours la bouche fermée, mais aussitôt qu'ils viennent à parler, on entend une langue bruyante et fortement aspirée. Pour ce qui est des femmes arabes, le jugement n'est pas plus amène. Il faut les contempler d'un peu loin, se contenter de l'ensemble et de ne pas rentrer dans les détails. Et quand Pierre Loti, émerveillé par l'art islamique, est heureux de décrire la splendeur féerique de la mosquée de Jérusalem, il nous la donne à voir vide, sans une âme qui vive, enfermée dans un musée. Quant aux pages de Loti sur les Juifs, elles dépassent tout. Les extraits que je lisais aux étudiants palestiniens illustraient parfaitement le propos d'Edouard, insistant auprès d'eux sur les racines communes d'un certain orientalisme et de l'antisémitisme. L'antisémitisme et le racisme anti-arabe vont de pair, disait-il. Les racines de l'orientalisme sont les mêmes que celles de l'antisémitisme.
Comment il est tout le temps out of place et quand il étudie l'orientalisme, il est très soucieux de voir la responsabilité des Occidentaux dans cette vision qu'il y a de l'Orient. Et on voit aussi, il se fait la tête d'Albert Camus parce que j'ai gardé un texte coché parce que Camus, moi je n'aime pas beaucoup et on n'ose pas dire qu'on n'aime pas Camus, on n'ose pas le dire et lui, il l'a dit. j'ai dit, je vais en profiter, je vais me mettre à l'ombre d'Edouard Saïd pour lui, pour que Françoise lise ce qu'il y a sur Camus.
Animée parce
c'est
que moi je l'aime plutôt.
Ben oui, ben vas-y.
Non, j'ai rien. Alors, je suis page 184. Aujourd'hui, nous sommes un peu dissipés. Voilà, pardon. Ce que Saïd nous donne à voir chez Camus, c'est son rapport au colonialisme français, son déni. La position de supériorité à partir de laquelle il regarde ou ne regarde pas les Arabes. Vous me comprendrez si je vous dis que j'ai mal à l'Algérie comme d'autres ont mal aux poumons, dit l'auteur des chroniques algériennes. Cela, Saïd le comprend. Ce qu'il met en cause, c'est le passage à la trappe de l'histoire, avec un grand H, dans le raisonnement de Camus. 1830, ou la conquête par la force d'un territoire qui ne vous appartient pas. En termes crus, le vol d'un pays. C'est une fois de plus la question du commencement. À qui appartient ce pays? Cette discussion, Saïd l'a eue à plus d'une reprise avec son ami Barenboim, pour qui le commencement de la faute israélienne datait de l'occupation de 1967, tandis que pour Saïd, elle remontait forcément à la création de l'État d'Israël en 1948. Voici ce que dit Camus. En ce qui concerne l'Algérie, l'indépendance nationale est une formule purement passionnelle. Il n'y a jamais eu encore de nation algérienne. Les Juifs, les Turcs, les Grecs, les Italiens, les Berbères auraient autant de droits à réclamer la direction de cette nation virtuelle. Actuellement, les Arabes ne forment pas à eux seuls toute l'Algérie. L'importance et l'ancienneté du peuple français, en particulier, suffisent à créer un problème qui ne peut se comparer à rien dans l'histoire. Les Français d'Algérie sont eux aussi, et au sens fort du terme, des indigènes. Il faut ajouter qu'une Algérie purement arabe ne pourrait accéder à l'indépendance économique, sans laquelle l'indépendance politique n'est qu'un leurre.
Voilà, c'est... Alors, tu es pas d'accord ?
Je vais en parler. Non, je vais en parler.
Parce que remarque, c'est l'absence totale des Arabes dans l'œuvre de Camus. Ben oui, dans un sens, je comprends Camus. Il décrit son monde. Et son monde, c'est l'univers de ce qu'il appelle des indigènes, c'est-à-dire les pieds noirs, quoi. Seulement, d'en avoir fait quelqu'un qui a un prix Nobel de la paix mondiale, je trouve que c'est un peu fort de café. Mais c'est vrai, et quand on lit Kamel Daoud, qui fait la contre-enquête, on voit à quel point il y a une absence des gens. Ben, enfin, ils vivaient quand même dans le même pays, ils vivaient à côté, et ben il les a pas vus.
Enfin, donc, il en a voilà. Moins vu un, mais pas bien, effectivement, dans l'étranger.
Son œuvre, il y a l'absence totale des Arabes. La peste, c'est à Oran. Tu as vu un Arabe dans la peste ? Non. Et dans ses livres les meilleurs, La Chute, j'ai oublié le dernier, puis L'étranger, ben, il n'y a pas d'Arabe. Dans La Chute, il n'y a pas d'Arabe. Ça se passe en Hollande. Bon. Et oui.
Il faut que je relise.
Il est un bon écrivain dans son monde, avec son public, mais il mérite le prix Nobel, non. Voilà. Alors, je disais qu'il préférait de beaucoup, c'est au sujet de la folie, qu'il préférait beaucoup, bien qu'étant influencé par les analyses de Michel Foucault, il préférait beaucoup Frantz Fanon et son approche. Mais là aussi, on voit que c'est un peu embrouillé parce qu'il met à la fin Peau noire, masque blanc, ce qui est un livre du début de l'œuvre de Fanon. Et il ne cite pas, par exemple, Les Années de la Terre, qui est beaucoup plus violent. Alors voilà donc. Comment il apprécie Frantz Fanon. Nous revenons décidément sur notre antillais psychanalyste et envoyé en Algérie à l'hôpital de Blida.
Dans une conférence donnée en 1996 à l'université de Bir Zeit, lors d'un séjour en Palestine avec Edouard, j'avais traité de la vision qu'avaient les Arabes. Mais j'ai déjà lu ça.
Attends.
Pas sûr.
Si, mais vas-y, c'est intéressant aussi.
J'ai l'impression de l'avoir déjà lu, alors on va passer à autre chose. Quelle page tu m'as dit ?
C'est pas page 130.
Fanon. Allons-y. En luttant contre le colonialisme, l'écrivain et psychiatre martiniquais ne sacrifie pas la lucidité à l'idéal ou à l'angélisme. Il connaît les mécanismes de la nature humaine face à l'oppression. Il les prédit, les décrit, les soigne. Il sait la bombe à retardement qu'est la passivité silencieuse de ceux qui vivent sous le joug et la domination. Sous le joug de la domination. Se battre contre le colonialisme est sa claire priorité. Ne pas renoncer à comprendre que la victime de la veille peut se changer en bourreau signe l'humanité de son intelligence. Un an après sa mort, le massacre des Français d'Algérie à Oran en juillet 1962 confirme son propos. Eût-il survécu à l'indépendance de l'Algérie, rien ne dit qu'il eût été le bienvenu au pays du parti unique algérien. Cela ne change rien à l'intégrale justesse de son combat, pas plus que la destruction sauvage et gratuite de Dresde en 1945 ne met en cause la ligne politique des Alliés. Ce que mettent en cause les horreurs commises au moment des victoires, c'est la nature humaine, laquelle devrait nous aider à penser le délire islamique qui gagne aujourd'hui les esprits aux quatre coins du monde. Si Saïd admire tant chez Fanon ce qui fait défaut à Camus, c'est aussi parce qu'il sait de quelle haine se nourrit l'humiliation des peuples. C'est un Palestinien conscient de l'étendue des dégâts à venir. Il sait, comme le savait Fanon, et pas toujours Sartre ni Camus, que l'impunité d'Israël soutenue par l'Occident à dominante chrétienne pourrait accoucher à terme d'une revanche aveugle, indomptable, incommensurable.
Voilà comment ça se termine sur un pressentiment de l'avenir qui n'est pas drôle du tout, du tout. Je reviens un peu sur Frantz Fanon. Frantz Fanon était un Antillais et dans son livre « Peau noire, masque blanc », il démontre bien comment une certaine façon de concevoir l'univers qui est l'univers de ces Antilles est marquée par l'Occident et qu'ils ont la peau noire, mais en fait, ils ont la mentalité blanche. Mais ensuite, il a fait ses études à Lyon. Il s'est rendu compte dans ses études en psychanalyse, il s'est rendu compte dans ses permanences que les travailleurs algériens qui venaient étaient terriblement marqués par la condition qu'on leur faisait en France. Il a été nommé à l'hôpital de Blida en Algérie et il a instauré des méthodes de psychanalyse tout à fait différentes de ce qu'il avait trouvé chez les psychanalystes bien conventionnel de l'Algérie de l'époque, qui était l'Algérie française, et il leur faisait faire des fêtes. Il a interdit qu'ils soient enchaînés à leur lit parce qu'il avait trouvé des malades enchaînés. Et ouais. Ah, mais moi je connais que Frantz Fanon. Je suis comme Saïd, je suis plus anticolonialiste que féru de psychanalyse. Mais encore, et là c'est évidemment dans le roman de la pensée, c'est un éclairage qu'on a qui est fort, fort intéressant. Et Fanon a commencé par héberger dans ses bureaux des militants FLN. Il a continué, il a été expulsé, il a continué en Tunisie à travailler. C'était lui qui rédigeait le bulletin du FLN. Et il a eu une leucémie, il est mort après avoir été soigné en Russie, où il disait de la Russie, oh là là, ils m'ont fait manger beaucoup de choux. Et on voit qu'il s'est dénoté chez le colonisé un danger. Et c'est pour ça qu'il fait la leçon à certains militants de la cause palestinienne. Il faut savoir voir chez celui qu'on soutient, qui est opprimé, qu'il y a un germe d'autre chose, et il faut savoir se méfier. Et c'est ainsi qu'il s'est mis à mal à un moment donné. C'était après les accords d'Oslo, il s'est mis à mal des intellectuels arabes même. Il devait y avoir, il était déjà atteint par la maladie, c'était en 2001, il devait y avoir à Beyrouth un colloque sur justement c'est pas l'islamophobie, le mot il l'emploie pas, mais enfin un colloque sur la littérature arabe, et c'est pas eux qui étaient en colloque, je me trompe, c'était les négationnistes qui devaient faire un colloque à Beyrouth, et elle a réussi à réunir 14 intellectuels arabes pour dire que c'était un scandale et qu'il fallait que ce colloque soit interdit. Et le colloque a été bel et bien interdit, mais à ce moment-là, Edouard Saïd, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré sa signature au nom de la liberté d'expression. Alors on voit que Edouard l'emporte sur Saïd quelquefois. Et c'est qu'elle lui reproche. Je vois que tu as encore un texte. Eh ben alors, oui. On va terminer par cette lecture. Il nous reste quelques minutes.
Il y a un rapport entre l'exil et l'amour dans la vie d'Edouard. Comme dans la mienne, notre pays vivait de n'en être pas un, d'être hors du monde. C'était l'endroit où le bonheur se déroule en marge, indissociable de sa solitude, avec pour seule identité l'ivresse d'exister. Notre lieu de retrouvailles, c'était l'entre-deux. L'aéroport, la salle de concert, l'hôtel, les voitures de location. Les endroits où il se trouvait des livres, des arbres, une cheminée, un piano. La mer, les jardins. La différence entre nous était qu'il avait un pays de retour. Moi, je n'en voulais pas d'autre. Sans doute aurions-nous été plus durablement heureux si nous l'avions été moins. si nous avions été moins amoureux. Je veux dire, si nous avions été plus conscients d'être allés, d'avoir été là où nous voulions aller, sans se demander autre chose. Pourquoi voulais-je, en dépit ou au-delà de notre complicité, l'autre côté de l'existence, celui que j'avais fui toute ma vie, la part de convention, la menace de l'ennui? C'était la question que me posait Edward et que je me pose calmement aujourd'hui. Pourquoi ma liberté ne suffisait-elle pas? Pourquoi voulais-je la vie quotidienne? Je crois qu'on se leurre à croire que l'on peut vivre sans l'heure. Non, que je regrette d'être partie, revenue, restée, repartie, mais j'ai conscience, ne serait-ce qu'à travers mon désir d'écrire ces lignes, que l'absence radicale de reconnaissance est une souffrance que l'orgueil n'apaise pas.
Je vais poser une question sur l'expression « l'absence radicale de reconnaissance ». C'est étrange. Qu'est-ce qu'il n'a pas reconnu? Est-ce que c'est elle parle de Saïd? Est-ce qu'elle
je
parle
pense
d'elle?
Elle parle d'être mariée ou pas, mais peut-être je me trompe.
C'est ça. Oui. Et on termine avec la dernière lecture sur plutôt le roman de Dominique Hédé que le roman d'Edouard Saïd. Mais quand même, avant d'écouter encore un morceau de musique palestinienne, une phrase, j'aime bien conclure en résumant un peu, Edouard Saïd, ben c'est sûr qu'il était anticolonialiste et c'est pas pour rien parce qu'il a, il a compris la gravité de la politique impérialiste de l'État d'Israël, que Haaretz l'appelle le dernier grand écrivain juif, hein, c'est pas rien. Et donc il est anticolonialiste, mais alors il n'est pas anticapitaliste du tout. ou très peu. Galère. Place à la musique palestinienne et merci à Pablo.
Radio Galère.
Hey yo, yeah. Ici c'est Sign Super Cool pour l'album Hold Up. C'est sur Radio
Hold Up.
Galère.
Sans méthode précise, sans être alléché par la pas du gain, mais juste parce qu'ils en éprouvent le besoin. On en a marre de rire, gloire à l'art de rue, dédié aux gens durs et à tous ceux que t'as rue.